de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 8 octobre 1992.
C'est génial que c'est vrai. On n'a pas le droit de dire que Occam, c'est génial. Et de dire suivez-le. Non. Oui, on doit critiquer toutes les confusions en philosophie. Alors, ça arrive constamment que notre esprit étant tellement obtus, on ne voit pas ces confusions. Et que quelqu'un qui critique ces confusions dit ah, oh, il critique tout. Attention, attention. Dites ce qu'il critique. Pas dire que Descartes est un grand philosophe, puisqu'il nous a tous fourrés dans une position idéaliste. Donc c'est pas un grand philosophe. On peut pas dire que Kant est un grand philosophe. Même si je l'aime beaucoup, et son petit chien avec. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on critique quand on critique? Qu'est-ce qui est critiquable? Et ce qui n'est pas critiquable? Ça aussi, ça fait partie de la philosophie. Hein. On fait de la philosophie pour savoir ce que c'est que la critique. On le verra. Et voir par nous-mêmes ce qui est critiquable. Or, on critique tout le temps, parce qu'on est de mauvaise humeur. Hein. Celui qui est de mauvaise humeur critique tout le temps. Celui qui est de bonne humeur, mais non, il ne critique pas. Il est heureux. Il est heureux de voir que, ben oui, il y a autour de lui des gens qui vivent avec lui. Alors, il est heureux. Alors, comprenons que la première chose que le philosophe regarde, c'est l'activité humaine, éthique, volontaire, l'activité de la transformation de notre univers et l'activité communautaire, la coopération. Et vous en avez un exemple constant, puisque tous les jours vous suivez des cours. Est-ce que vous coopérez? Tous les jours, vous assistez aux offices. C'est une activité communautaire. Est-ce que vous coopérez? Et ayez le sens que lorsque vous critiquez, très souvent, c'est parce que vous ne coopérez pas. Dès qu'on coopère, on n'a plus envie de critiquer. Parce que ça devient nôtre. Vous avez le droit de critiquer ceux qui critiquent. Alors ça vous donne un fameux droit. Hein, le droit du chien de chasse. Qu'on n'arrive à plus critiquer du tout. La communauté dans laquelle on est. Là où on coopère, on se donne à fond. Et on s'y donne à fond. On a envie de dire Azor, les pattes. Et sur ce qu'il désire taper dessus en critiquant, alors on a le droit de dire mais non, critique pas. Parce qu'en critiquant, tu te diminues. La philosophie commence par la réflexion sur les opérations humaines. C'est ce qu'on appelle la philosophie pratique. Pratique. Les trois grandes opérations. Le travail, l'amour d'amitié, on le verra ça. Et puis, la coopération. Ces trois grandes expériences humaines. C'est difficile d'en trouver trois d'autres plus fondamentales que celles-là. Si vous les trouvez, notez-les et vous me les communiquez. Puisque nous travaillons ensemble et que nous cherchons la vérité ensemble. Et que Saint Benoît dit qu'il faut toujours faire grande attention aux remarques des novices. Il dit ça pour le Père Abbé. Grande attention aux remarques des novices. Parce qu'ils ont une tête fraîche. Alors ils voient tout de suite des tas de choses que les autres ne voient pas. Il y a un passage extrêmement important au point de vue philosophique, ça fait partie. Vous voyez, il faudrait que vous ayez une feuille sur les grandes distinctions à faire. Je vous en ai signalé ce matin l'acte d'homme, l'acte volontaire. Maintenant, je vous en signale encore une autre. La distinction entre la connaissance pratique et la connaissance dite spéculative. C'est une distinction capitale dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que Hegel a confondu les deux. La dialectique hegélienne ne fait plus cette distinction. Et nous devons donc la redécouvrir après Hegel. Redécouvrir cette distinction du pratique au spéculatif. Et je dis bien, on science courante, c'est le pratique. La philosophie est pratique. Elle est plus pratique que la psychologie. Alors ça, quand on dit ça à un psychologue, il rigole. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'était que la philosophie pratique. Il croit que la philosophie, c'est l'idéalisme. C'est avoir des idées. Mais non, c'est pas avoir des idées, le philosophe. C'est d'être dans la vérité. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les idées qui font la philosophie. Des imbéciles qui ont des idées. C'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est d'être dans la vérité. C'est connaître l'homme dans la vérité. Et la philosophie est plus pratique que la psychologie. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce qu'une action humaine est pratique lorsqu'elle est finalisée. C'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est d'être finalisé. Le choix implique une fin. Le travail implique une fin. Tandis qu'au contraire, la psychologie regarde le comportement. Et le comportement, s'il se sépare de la finalité, s'abstrait. Le comportement finalisé peut être lui concret. Mais il est concret grâce à la finalité. Et donc si je regarde une activité humaine en tant que finalisée, c'est quelque chose de plus concret que son comportement. Ça, c'est très très important de bien le comprendre. Qu'est-ce qui est concret dans votre vie? Manger une tartine. C'est concret. Vous n'allez pas dire que c'est abstrait. Quand vous prenez un petit déjeuner le matin, après le cours, je regarde. Oh, discrètement. La manière dont on va à la brevard. Pendant le concile, on disait que c'était quand on allait au bar que l'œcuménisme était réalisé. Parce que c'est dit dans l'écriture. Abraham a été à ce puits. Abraham et Jacob ont été à ce puits. Leur petit-fils et leur bétail. Le puits est toujours source d'œcuménisme. Mais radicalement, vous voyez. Alors, toutes les différences disparaissent parce qu'on va tous boire le café ou le thé, suivant les cultures. Suivant. Donc, on va tous au même abreuvoir. Et prendre son petit déjeuner, il n'y a rien de plus concret. Mais prendre un petit déjeuner humain et monastique. On prend pas n'importe comment son petit déjeuner. On bénit le Seigneur avant et on remercie le Seigneur après. Donc c'est un acte religieux. Si vous le coupez de l'acte religieux, votre petit déjeuner devient œcuménique, semblable au bétail. Vous avez déjà vu un chien, quand on lui serre sa pitance de matin, c'est extraordinaire, il jette dessus avec une force étonnante. Quand on l'a bien dressé, parce qu'il ne mange qu'à certaines heures. Il ne fait pas de bénédiction. Il ne remercie pas le Seigneur après. Le maître remercie le Seigneur après. Ça va donner un bon petit toutou. Le petit déjeuner, il est parfaitement concret lorsqu'il est humain. Quand il n'est pas humain, il est abstrait. Parce qu'il est comme, il est au niveau de l'animal. Nous avons en nous un animal qui se porte plus ou moins bien. Parce que c'est pas commun de cohabiter avec un être intelligent pour un animal. Ça fait des petits conflits. Et quand on se précipite sur le petit déjeuner, comme le chien, ce n'est pas humain. C'est animal. Et l'animal est abstrait par rapport à l'humain. faut bien comprendre ça. Rien n'est plus concret que Dieu. Et plus vous approchez de Dieu, plus vos actes sont concrets. Mais on joue très fort sur le concret et l'abstrait, vous savez. Et quelquefois on dit qu'un acte est concret alors qu'il est très abstrait. C'est au point de vue philosophique, lorsque vous prenez votre petit déjeuner comme un chien qui se précipite sur son bol, vous faites un acte qui n'est pas concret. L'acte de l'animal. Il est concret pour l'animal, mais l'animal en vous, c'est pas tout. Une partie. Alors qu'est-ce que c'est que l'abstrait ? C'est regarder une partie alors qu'on devrait regarder le tout. Abstraire, c'est abandonner une partie du tout et ne regarder qu'un aspect du tout. C'est ça l'abstraction. Alors, il s'agit de redécouvrir dans la recherche de la vérité le passage d'une vérité pratique à une vérité spéculative. Je dois me poser la question, est-ce que cette distinction que fait Aristote, que fait saint Thomas, est-elle encore vraie aujourd'hui? Je sais bien que c'est un peu une question de critique ça, mais c'est quand même très important. Parce que je ne fais pas la philosophie en m'appuyant sur l'autorité d'Aristote ou en m'appuyant sur l'autorité de saint Thomas. L'autorité en philosophie, c'est la dernière des raisons. C'est le refuge des pauvres types. C'est-à-dire de ceux qui ne sont pas philosophes, hein, pour le philosophe, vous voyez. Les pauvres types, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à avoir suffisamment d'autonomie dans leur connaissance. Alors ils s'appuient sur la canne du vieillard. Ou sur les deux mains de l'enfant. Parce qu'il y a les enfants qui ont quatre pieds et les vieillards qui en ont trois. Et puis l'homme, en pleine force, autonome, il en a deux. Alors, je m'appuie sur l'autorité. Et m'appuyer sur l'autorité, c'est la canne. Parce que je n'ai pas découvert. C'est pas coupable du tout de ne pas avoir découvert. De temps en temps, je fais appel à Aristote. C'est sûr. Ou je fais appel à saint Thomas. Ou je fais appel à Hegel, si je fais hegelien. C'est normal, ça. Parce que on est fatigué, on a besoin d'une canne. Et l'autorité pour le philosophe, c'est la canne. On s'appuie sur la canne. On n'est pas assez vigoureux pour continuer sa route tout seul. Alors on s'appuie sur quelque chose qui nous aide. Que représente le passage de la connaissance pratique à la connaissance dite spéculative? C'est que la connaissance pratique est faite pour réaliser une opération parfaite. La connaissance spéculative, elle est faite pour la recherche de la vérité à l'état pur. La connaissance spéculative a en elle-même sa propre finalité. La connaissance pratique n'a pas en elle-même sa vraie finalité. Bien, cela, je peux l'expérimenter moi-même. Et Aristote donne ce petit exemple que je peux moi-même le donner. J'aime de voir par amour pour la vision. Quand je regarde une belle fleur, ça m'est suffisant de regarder une belle fleur. Ça me repose. Puis c'est beau. Quand je regarde le visage d'un enfant, le visage d'un vieillard, le visage d'un homme en pleine force, d'un athlète. Le regard suffit à lui-même. Et la vision a en elle-même sa propre finalité. Je regarde pour regarder. On a tous fait cette expérience. Si on ne l'a pas encore faite, faites-la. Regardez un coucher de soleil. C'est beau. L'artiste regarde le coucher de soleil et il a envie tout de suite de réaliser ce qu'il ressent en lui. Mais l'homme, et non pas l'artiste, sait regarder le coucher de soleil pour lui-même. Il y a donc un amour de la connaissance pour elle-même. Il y a un amour de la connaissance philosophique pour elle-même. C'est ça qu'on appelle la connaissance dite spéculative. Tandis qu'au contraire, quand j'ai connaissance d'ordre pratique, je réfléchis sur ce que je dois faire. Quand vous vous réveillez, vous réfléchissez sur ce que vous devez faire pour ne pas arriver trop tard à l'horizon. C'est une connaissance pratique de vous réveiller et de vous habiller. C'est une connaissance pratique. Quand vous allez d'ici au réfectoire, vous savez très bien pourquoi vous allez au réfectoire. Votre petit déjeuner qui vous attend. Connaissance pratique de se mouvoir jusque-là pour pouvoir prendre mon petit déjeuner. Quand vous griffonnez sur votre papier en prenant des notes, je vous ai dit, c'est une activité du facere, connaissance pratique. Pourquoi vous notez? C'est pour mieux retenir. Parce que ce qu'on écrit, ordinairement, se grave davantage que quand on n'a pas écrit. Donc, vous prenez des notes pour mieux écouter. Parce que c'est très rare qu'on peut écouter sans prendre de notes. C'est pour fixer votre attention. Oui, connaissance pratique. Pour être plus apte à écouter. Écoutez, connaissance spéculative. Vous écoutez pour écouter. C'est sûr, vous écoutez pour écouter, pour chercher la vérité, pour comprendre ce qu'on a dit. Et la connaissance écoutée est plus noble que gratter sur un bout de papier. C'est plus noble. Mais étant donné notre condition humaine, nous avons besoin de prendre des notes pour écouter. Mais il ne faut pas écouter pour prendre des notes. Oui, c'est comme celui qui est devant un paysage magnifique et qui ne pense qu'à une seule chose, prendre une photographie. Mais non, regardez le paysage, c'est plus important que de prendre une photographie. Quand vous l'avez bien regardé, vous pouvez prendre une photographie pour graver. Prendre la photographie me permet de revoir le paysage, ce qui va se graver. J'analyse exprès avec vous tout ça pour que vous compreniez ce passage si important du pratique au spéculatif. Et on est en présence, selon l'ordre génétique, le pratique est avant le spéculatif. Alors je vous dis tout de suite, l'erreur de la scolastique décadente, c'est d'avoir mis le spéculatif avant le pratique. Et de dire tout simplement, le pratique, c'est l'application du spéculatif. mystique, c'est appliquer les conclusions de la théologie scientifique à mon activité, au concret. C'est pas vrai, ça. La connaissance mystique a sa propre connaissance en elle-même. Il ne s'agit pas d'appliquer comme une chose seconde. On sait très bien ce que c'est qu'appliquer. Vous avez un modèle, vous l'appliquez. Alors ça, c'est très simple. Vous avez un modèle dans le livre de cuisine, on vous dit comment il faut cuire. Et vous l'appliquez. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que le gâteau que vous avez fait, c'est vous qui l'avez inventé. Vous avez simplement appliqué d'une façon intelligente, en dosant exactement et en mettant un petit grain de sel en plus pour que ce soit votre œuvre. Vous avez ajouté quelque chose qui vient de vous. Le passage de la connaissance pratique à la connaissance spéculative est une chose capitale en philosophie. Et Hegel l'a supprimé. De sorte qu'il faut le rapprendre aujourd'hui. Et le faire non pas parce qu'Aristote l'a fait, parce que saint Thomas l'a fait, c'est parce que j'ai l'expérience de deux types de connaissances. Une connaissance affective, une connaissance pratique, et une connaissance pour elle-même. Je connais pour connaître, comme j'aime pour aimer. Mais je connais pour connaître, pour rechercher la vérité, et uniquement pour chercher la vérité. Tandis que dans la connaissance affective, dans la connaissance pratique, je connais pour agir, je connais pour aimer plus. C'est pas la même chose du tout. Alors, on va voir comment va naître cette nouvelle connaissance dite spéculative de la philosophie de la nature. Lorsque je suis en présence du travail de l'artiste, de l'homme qui travaille. L'activité du travail regarde une matière. Ma première expérience de la matière, c'est par le travail. Et c'est dans le travail, c'est la première expérience de la matière que j'ai. J'ai une idée en tête, je veux réaliser une statue. Je dis, cette statue, elle sera de bois, ou elle sera de marbre, ou elle sera de pierre. Bon, dès que l'artiste veut réaliser quelque chose, il se sert d'une matière. C'est là la faiblesse de l'artiste humain, c'est qu'il est dépendant d'une matière. Et si la matière est véreuse, il n'arrivera jamais à réaliser ce qu'il désire. Si la matière est bonne, il pourra peut-être réaliser ce qu'il désire. Cette matière est excellente. Il fait son œuvre et puis tout d'un coup, il y a un os. Il ne peut plus. Il est arrêté. Ou bien tout d'un coup, il y a un éclat. a dans la crâne. Et si ça va pas, il est têtu, têtu. Puis tout craquant. Résultat. Parce qu'il veut dominer la matière, on la domine jamais totalement la matière. La matière a toujours en elle quelque chose d'inconnu. Vous savez, les œuvres qu'on fait, artistiques, quand il y a eu le barrage de Fréjus qui a craqué, on a cherché qui était coupable. Qui est coupable? La matière. Et non, la matière, elle parle pas aussi. Elle ne dit pas, mais c'est la matière, quelquefois. Quelquefois, c'est l'artiste qui aurait dû faire plus d'attention à la qualité de la matière. Quand vous faites des immeubles en verre, comme aujourd'hui tout le temps, tu vois, et que peut-être la chaleur va augmenter, qu'est-ce qui va arriver? Ça peut aller jusqu'à tel degré. Puis, on n'a jamais vu de chaleur comme ça, mais ça peut se faire. Oui, on est dépendant de la matière, mais terriblement dépendant de la matière. L'artiste, le grand artiste, connaît sa matière. Prenez tout simplement un artisan qui fait des meubles, un charpentier, puisque c'est Saint-Joseph. Un charpentier, il connaît la matière, il connaît la matière usuelle, il change de pays. Il passe du pays nordique au pays tropicaux. Ce n'est plus la même matière. Alors il faudra qu'il apprenne à savoir ce que c'est que la matière. La matière de celui qui veut éduquer. L'éducation est un art. Mais il ne peut pas éduquer tout le monde de la même façon. On n'éduque pas de la même façon quelqu'un de 20 ans, de 18 ans ou de quelqu'un de 40 ans. Quelqu'un de 40 ans, il a beaucoup plus de nœuds. Il a lutté, il y a des nœuds. Celui de 18 ans, c'est flexible. On arrive à l'éduquer comme on veut. Tandis que 40 ans, il résiste. Il y a un nœud. Il ne peut pas. Courbe la tête, je peux pas. J'ai du rhumatisme. Et il y a des rhumatismes spirituels. Ce qui fait que non, impossible. Fais un acte de mise en œuvre, impossible, impossible. Je peux pas. C'est trop fort, je peux pas. Puis là, on est comme un âne qui s'arrête. On a beau taper dessus, on s'arrête. Parce qu'on peut taper sur une porte, celui l'ouvre à la femme et un âne. Difficile. Plus vous tapez dessus, plus il serait dit. Dans le cas, c'est lui la matière. Et il se fait des nœuds. Je dois être attentif à ça. Alors voyez, c'est ça que je veux montrer. C'est que l'artiste connaît la matière. C'est-à-dire connaît ce qui, dans ce qu'il travaille, qu'il appelle la matière, est capable d'être transformé. Ce poids peut être transformé. Jusqu'où? Il y a un moment où c'est impossible. Tout craquerait. Il n'y aurait plus rien. Donc il y a des limites à la capacité de la matière. Des limites qui dépendent de la chaleur, qui dépendent du milieu dans lequel on est, qui dépendent de l'humidité, qui dépendent d'un tas de choses. Il y a des limites à cette capacité, et il doit le connaître. L'artiste connaît la matière en tant qu'elle peut être transformée. Mais j'ai une autre connaissance de cette matière, qui est le bois. En grec, oulé. Matière et le bois, oulé. C'est très curieux. C'est le même mot, le bois. Alors, j'ai une autre connaissance de cette matière. Je connais cette matière pour elle-même. Je la connais en tant qu'elle est capable d'être transformée. Mais je peux aussi la connaître. loin dans la connaissance de sa capacité. Il faut la connaître pour elle-même. J'ai donc une expérience particulière de la matière qui n'est plus la connaissance de l'artiste, qui est la connaissance de l'homme. Et j'essaie de connaître cette matière pour elle-même. Alors là, je vois qu'il y a une nouvelle connaissance de la matière. Connaître la matière pour elle-même. Et non pas en vue de la transformer. Vous faites cette petite expérience constante. Quand vous allez chez un médecin, vous lui présentez la matière malade et vous vous demandez est-ce que vous êtes capable de... Bon, alors il connaît le corps humain en tant qu'il est capable de transformer ou en tant qu'il est capable d'être infecté par un microbe, par un virus, quand on ne sait pas ce que c'est un virus. Qu'est-ce que c'est que ce virus? On n'en sait rien. Mais ça veut rien, c'est un virus. Vous voyez, on connaît l'Y par l'X. On ne connaît pas. Mais on a une petite connaissance. On cherche. On cherche. Et puis il y a la connaissance de l'homme pour lui-même. Et non pas en tant qu'il est capable d'être guéri. En tant qu'il est capable de transformer. Dans l'éducation, vous connaissez l'homme en tant qu'il est capable de transformer. Quand vous voulez aimer quelqu'un, vous aimez la personne pour elle-même. Je t'aime pour te transformer. Je t'aime pour faire de toi un saint. Ça peut arriver, ça. Je t'aime pour faire de toi un saint. Ça veut dire, tel que tu es actuellement, c'est très difficile de te supporter. Mais tu es capable de devenir un saint et à ce moment-là, je t'aimerais encore beaucoup mieux. Oui. C'est pour vous faire comprendre le passage du pratique qui regarde une matière et le regard différent sur la même réalité ou sur une réalité différente, mais sur la même réalité où l'on comprend cette réalité pour elle-même. Regarde la matière pour elle-même, je suis en face d'une nouvelle expérience. L'expérience directe que j'ai de ce monde matériel, de ce monde physique. Qu'est-ce que je constate? Je constate que toutes les réalités matérielles, physiques, sont corruptibles. Je laisse un morceau de bois dehors pendant 10 ans et je reviens au bout de 10 ans. C'est mon trésor, ce morceau de bois. Qu'est-ce que je vois? Bien abîmé. Il a été mangé. Il n'y a plus grand-chose. Si je le vois au bout de 100 ans, plus grand-chose. Le monde physique Est-ce que, aujourd'hui, ce problème de la connaissance du monde physique est particulièrement difficile? Pourquoi? Parce qu'il est encombré des sciences physiques. Je dis ça exprès, encombré.
Cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 14 octobre 1992.
Continuons l'introduction sur la philosophie de la nature, philosophie de la matière. Mettez les deux. Un problème très délicat, très important, qu'il faut au moins situer, c'est les rapports de la physique contemporaine avec la philosophie de la nature. C'est-à-dire, comprenez bien, c'est le même problème, différent, mais qui se poserait par rapport à la biologie et la philosophie du vivant. Donc, c'est un problème capital, très difficile, puisque c'est un problème de critique. La critique, c'est toujours assez difficile, parce que le degré de pénétration d'un critique dépend de la pénétration de notre intelligence. C'est pour ça que là, les opinions sont toujours diverses. Et c'est très simple à comprendre. Quand vous faites désirer atteindre un sommet en montagne, vous vous arrêtez à 1000 mètres et vous regardez le paysage. Vous vous arrêtez à 2000 mètres, vous regardez le même paysage. Vous vous arrêtez à 3000 mètres, vous regardez le même paysage. Vous avez trois visions différentes. Si vous le regardez en avion, 10 000 mètres, vous voyez, toujours le même paysage. Chaque fois, c'est différent. Alors, je vois et je situe avec vous les diverses positions. C'est très important de le voir. Certains disent la physique d'Aristote, la philosophie de la nature d'Aristote, est périmée. Elle est remplacée par la physique moderne. Position très classique. Et on va jusqu'à dire, saint Thomas se sert de la physique d'Aristote, donc cette théologie est périmée. C'est évident qu'il y a des choses à purifier dans la physique d'Aristote. Je ne dis pas du tout qu'il faut répéter la physique d'Aristote aujourd'hui telle qu'elle est, c'est évident. On est tout à fait d'accord là-dessus. Comme pour son Peripsuchès. Traiter de là, par rapport à la biologie. Mais c'est un peu rapide de dire ça. L'autre position, c'est que la physique d'aujourd'hui prépare le terrain et on doit, à partir de là, avoir une métaphysique philosophique. Qui n'est pas la philosophie première, qui est une métaphysique. Ça fait deux positions assez extrêmes. Vous voyez ? Deux positions assez courantes. Personnellement, je n'accepte ni l'une ni l'autre. J'ai peut-être tort, hein ? Comme c'est très difficile. Mais ça me semble impossible. Et c'est assez facile de le comprendre, au point de vue proprement critique. La philosophie essaie de comprendre la réalité existante par rapport à l'homme. C'est un univers habité par l'homme que le philosophe regarde. C'est l'animal que je porte en moi que le philosophe regarde. Il sait très bien que lorsqu'un chien pleure, c'est très difficile de savoir ce qu'il pense. Et quelle est son affectivité de fidélité? Qu'est-ce que ça représente, la fidélité d'un chien? C'est extraordinaire, la fidélité d'un chien. Même au bout de 20, de 10 ans, parce que 20 ans pour un chien, c'est beaucoup, au bout de 10 ans, le chien reconnaît son maître. De cette fidélité. Et quelquefois, les hommes, au bout de 10 ans, ne reconnaissent pas ceux qui sont choisis comme amis, ceux qui étaient en captivité. Mais c'est pas commode du tout, hein. Parce que je ne connais pas l'animal en étant à l'intérieur, en le regardant de l'extérieur. Je ne peux pas dialoguer avec lui. C'est très amusant de voir les vétérinaires. Causer avec un vétérinaire, causer avec un bon médecin de village, qui reste un médecin, ami de la famille. C'est très intéressant, ça vaut la peine, comme expérience. Cette conversation, je me souviens, que j'avais eue au en allant au Carmel de Tours, j'arrivais à minuit au Carmel de Tours, et je ne savais pas la première fois que j'allais trouver le chemin, je ne connaissais pas. Alors je rencontre sur la route quelqu'un en bicyclette, il fait signe, s'arrête, puis c'était un apiculteur. Alors j'ai eu une longue conversation sur son métier d'apiculteur, ça m'intéressait beaucoup, parce que les abeilles, c'est toujours intéressant. Et puis ça a terminé de cette manière-là, à la porte du Carmel, je m'en souviens. Ce qui montrait que tous les produits chimiques condamnés aux choses avaient une répercussion nécessairement sur les abeilles. Ça ne pouvait pas être autrement, parce qu'elles allaient quelquefois, à la place de prendre le pollen, elles prenaient le produit chimique avec. Et alors ça avait des conséquences de diarrhée particulières pour la pauvre petite bête, et qui crevait. Alors il a terminé de cette manière-là. « Ah, mon père, priez pour mes abeilles. Et priez pour moi qui suis un pêcheur. » Mais les abeilles passaient avant. C'était la première intention. C'est intéressant de voir ça, comment l'homme s'attache à l'animal et comment il y a un procédé d'identification d'animal et d'homme. Psychologiquement parlant, il faut la différence entre l'abeille et l'apiculteur. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est comprendre qu'il y a une différence entre lui, de sorte qu'il peut pleurer sur ses abeilles, mais il n'est pas touché par la maladie de l'abeille. Tandis que s'il les aime avec un amour passionnel, l'abeille mourant, il meurt. Comprenez, le point de départ de la connaissance physique, le point de départ de la philosophie de la nature, tout est là. Je vous ai déjà dit, du moins certains d'entre vous, cette petite expérience au point de vue biologique et la philosophie de la nature, la philosophie de l'âme. Là, c'est très éloquent, c'est plus difficile pour la physique. Mais c'est la même chose. Pour la philosophie de l'âme, le philosophe cherche l'âme tout de suite. Première induction. Dans l'homme, il y a une âme. Chez l'animal, qu'est-ce que c'est? Très difficile à savoir. Mais au fond, le philosophe s'intéresse au vivant. Il s'intéresse à l'homme. Je ne fais pas la philosophie du crapaud. ça ne m'apporterait pas grand-chose. Audiovisuel du crapaud. Non. Mais ça ne m'apporterait pas grand-chose, c'est descriptif. Je fais la philosophie de l'âme humaine et du corps. Et pour cela, je connais le vivant à partir de son opération propre de vivant. Que ne fait pas le point de vue de la science biologique. Donc là, j'ai tout de suite une très grosse différence entre les deux. Pour la physique, c'est beaucoup plus difficile. Mais si on comprend que la philosophie s'intéresse à l'homme tout le temps, c'est l'homme que je cherche. Alors là, voyez, je suis tout à fait d'accord de dire que la science moderne, le développement de la science moderne en physique, en biologie, me permet de mieux comprendre ce qu'est la philosophie. Et permet de voir ce qu'il y a de tout à fait propre à la philosophie. Et d'abandonner le reste à la science. Ça m'intéresse. C'est toujours intéressant. Les scientifiques, c'est toujours intéressant. Parce que ça nous fait comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que ça nous fait comprendre de la réalité? Ce qui est mesurable. Les procédés de la science, ce qui est mesurable. Et toute la formalisation des sciences se fait par les mathématiques. Or, les mathématiques ne donnent pas une connaissance du réel. Ça formalise la relation et le divisible. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Vous voyez l'article dans le temps, je vais vous donner la référence pour ceux qui s'intéressent à ça, un article très coriace, fait par le père Gérard Deslauriers, à maths 2, il est mort maintenant, il est au ciel, je ne sais pas ce qu'il fait de ses maths, mais c'est quand il était sur la Terre, il était bon, normalien, agrégé, docteur, donc il avait tous les grades en mathématiques, entré chez les Dominicains. Alors quand il faisait sa thèse en mathématiques, parce qu'on était grands amis, j'aimais beaucoup, hein. C'était un vrai matheux, il préparait sa thèse avec son petit tableau noir devant chez lui, et je lui demandais sur quoi il veut sa thèse, alors il m'expliquait, et puis je lui dis, mais à combien de personnes qui pourront comprendre? Je crois qu'il y aura quand même 3-4 personnes qui comprendront. Et il était très conscient en disant ça, et c'était, je crois, la vérité. La connaissance mathématique poussée à l'extrême, avec quelqu'un qui méditait tout le temps, et qui par le fait même avait une acuité de regard, mon grand. Mais sa métaphysique ressentait le fait qu'il était très fort en maths. Alors l'habitus mathématique prenait toute la sève. Il n'y avait plus beaucoup de sève pour la métaphysique pure. Donc, en métaphysique, il était essentialiste. C'était la métaphysique des possibles. C'était une métamathématique. La métaphysique des possibles. Un jour, il nous avait une conférence. Mais il y avait la répercussion en théologie. Les diverses manières possibles d'être pape. Il faut le faire, mais c'est quand même quelque chose. Un jour, il le faisait comme ça. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez. Parce que c'est dans les applications comme ça qu'on voit tout de suite ce que c'est. Il a fait une session théologique où les professeurs étaient là. J'étais là, il y avait les professeurs, les étudiants. Parce que. Et le bon père Dondaine, au bout de 5 cours, il a levé les bras tout d'un coup pendant que le papa était derrière moi. Là. Il a fait, ah, je comprends la question posée. vue de la causalité formelle. Mais, point de vue final, vous voyez pas très bien. Le point de vue de la causalité formelle, c'était assez extraordinaire. C'était poussé, c'était comme un scalpel qui poussait le plus loin possible les distinctions qu'il pouvait faire le plus possible, jamais fini, en allant tout le temps plus loin. Un jour, cette session était sur le mode que représente le mode particulier de la grâce, de la virtus, sacramentelle. Dans nos sacrements chrétiens. Alors, le père Dondaine, qui était un bon théologien, c'est-à-dire qu'il connaissait parfaitement saint Thomas. C'est tout à fait la théologie post-tridentinienne. C'est-à-dire qu'au fond, poussons indéfiniment la recherche d'une définition, d'une relation, mais la réalité. Vous voyez, ce qui est intéressant dans les sacrements, c'est leur finalité. Propter homines. Alors quand c'est propter, la poussée la plus lointaine de la formalisation, ça n'a plus grand intérêt. Alors, je reviens. Le point de départ de toute la philosophie réaliste implique le jugement d'existence. En acte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas explicité chez Aristote, parce que pour lui, ça va de soi. On cherche le to einai anthropo. Ça, il dit formellement. Le to einai anthropo. C'est-à-dire l'être à l'homme. L'être à l'homme. L'existant à l'homme. Aristote dit textuellement que la première interrogation, c'est savoir est-ce que ça existe ? Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est ? Mais d'abord, est-ce que ça existe ? Si ça n'existe pas, le philosophe ne s'en intéresse pas. Parce qu'il a déjà assez de choses à comprendre ce qui existe. Donc c'est la seule chose qui l'intéresse. Le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience qui implique le jugement d'existence. Quel est le point de départ de la physique contemporaine ? Est-ce que la physique contemporaine peut-elle exister sans le lien avec les mathématiques ? Est-ce que la biologie contemporaine peut exister sans le lien avec les mathématiques ? Le point de vue de la mensuration. On mesure ce qui est divisible, puisque c'est ça les mathématiques. Le divisible. Donc, ce n'est plus l'existant, bien que toute mathématique est partie au point de départ d'une expérience. L'homme ne connaît rien sans expérience. Et donc, les mathématiques ont eu le point de vue d'une expérience. Mais on formalise tout de suite. Et en formalisant, on quitte le point de vue du jugement d'existence. Le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Ceci, c'est très intéressant pour comprendre quelqu'un comme Husserl, un contemporain, ou un moderne, si vous voulez. Husserl, qui est le grand philosophe de la phénoménologie. Husserl dit tout le temps « mise entre parenthèses de l'exister ». Or, Husserl était mathématicien. Il a fait son doctorat en mathématiques, pas en philosophie. Et c'est le matheux qui est devenu philosophe. Donc, il a continué dans la perspective mathématique la mise entre parenthèses de l'exister. En mathématiques, il y a la mise entre parenthèses à l'exister. Autrement, je ne pourrais pas faire des... critique ne regarde pas l'être existant, mais regarde quelque chose qui est formalisé par l'intelligence. Une relation formalisée qui a un fondement réel, c'est sûr, mais lointain, et c'est pas ça que je regarde. Parce que ce fondement réel, je ne peux pas le formaliser. La qualité, je ne peux pas la mesurer. Je la connais, mais je ne peux pas la mesurer. C'est pour ça qu'il y a toujours deux manières de développer la philosophie, de développer en philosophie. L'une par les qualités, l'analogie. L'autre par la quantité, la dialectique. Toute pensée qui repose sur la mensuration se développe dialectiquement. Toute pensée qui repose sur la qualité se développe analogiquement. Alors, mettez ça une petite fiche, parce que vous mettrez du temps à le comprendre. C'est vrai, on met très longtemps à comprendre ça. C'est très difficile à bien comprendre. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'analogie, puis après il faut comprendre ce que c'est que la dialectique. Et comprendre que la dialectique implique toujours une connaissance quantitative. C'est univoque. Alors, il y a dialectique et dialectique. Il y a des dialectiques extrêmement subtiles où on ne voit pas tout de suite ce point de vue-là, tellement c'est subtil. La dialectique hegelienne, à ce point de vue-là, est très subtile, elle n'est pas facile à comprendre. Elle est même difficile à comprendre. Et elle est très forte. Alors, une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que dès le point de départ, l'expérience du philosophe n'est pas l'expérimentation. Puisque le jugement d'existence commande mon expérience. Et que le philosophe, parce que le jugement d'existence est toujours présent, l'homme est toujours présent. Toute connaissance philosophique est relative à l'homme. Tandis que toute connaissance mathématique est coupée de l'homme. Toute connaissance scientifique est coupée de l'homme. C'est pas l'homme qui m'intéresse. C'est telle partie de l'univers. C'est telle qualité, du moins telle quantité, telle partie de l'univers, une partie que j'analyse, dont je vois les effets. Dont j'étudie le mouvement, dont j'étudie les réactions. Toute connaissance scientifique est liée aux mathématiques. On l'a dit, et c'est très vrai, les mathématiques jouent pour les sciences modernes le rôle de la métaphysique au Moyen-Âge par rapport à toutes les parties de la philosophie. Les mathématiques ont pris la place de la métaphysique. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Mais nous continuons de faire la métaphysique pour sauver l'homme, l'esprit. Le philosophe seul peut parler de l'âme spirituelle. Le philosophe seul peut parler de la vérité. Le philosophe seul peut parler de l'amour. Seul, il peut parler de l'être, ce qui est. Vous voyez, le développement des mathématiques, le rôle des mathématiques sur la connaissance de l'univers et sur la connaissance des vivants oblige le philosophe de prendre conscience d'une manière beaucoup plus nette de ce que représente sa connaissance philosophique. C'est pourquoi vouloir se servir de la physique contemporaine pour comprendre ce qu'est la philosophie de la nature et quelque chose d'impossible. Puisque si je n'ai plus le contact avec l'exister dès le point de départ, je ne peux pas le retrouver. Plus ma science se développe, plus l'exister, le jugement d'existence, devient lointain. Au point de départ, je note, je ne regarde pas l'exister, je regarde la relation avec. différence entre ce que c'est que la loi et la cause. La loi scientifique regarde les relations entre antécédents et conséquents, une relation nécessaire. La cause en philosophie, c'est un principe. Tandis que la loi est une relation. Je suis dans le domaine des relations en science, comme en mathématiques, c'est le domaine des relations. Alors, c'est très intéressant le développement de la science physique ou le développement de la science biologique pour étudier ce que représente la causalité matérielle. La causalité, et je précise, dans la causalité matérielle, par la causalité matérielle telle que le philosophe latin, mais la quantité dans la causalité matérielle, c'est la quantité qui est toujours présente dans tout mouvement, dans toute réalité physique. C'est cette quantité qui est mesurable et qui est le support de la mensuration. L'enracinement de la quantité par rapport à la cause matérielle, je ne le vois pas en science. Je ne vois que le domaine quantitatif. C'est pour cela que le progrès de la science va poser aux philosophes de nouveaux problèmes. Ça, c'est sûr. Pour être sûr que le philosophe n'empiète pas sur un domaine où il est incompétent et montrer aux savants de ne pas empiéter sur un domaine où il est incompétent. Ils coopèrent, j'allais presque dire négativement, l'un par rapport à l'autre. Je ne crois pas que la métaphysique aidera énormément le mathématicien en tant que mathématicien. Mais il fera comprendre aux mathématiciens que ces mathématiques ne lui donnent pas la finalité de sa vie humaine. C'est quand même important, parce que le mathématicien est un homme. Et le jour où le mathématicien identifie sa vie humaine et les mathématiques, son épouse dépérit. C'est bien évident, sans parler de ses enfants. Parce que les mathématiques ne peuvent pas expliquer l'amour. Ne peuvent pas expliquer ce que c'est que la fécondité. Non. Les mathématiques peuvent expliquer les conditions sine qua non nécessaires pour qu'il y ait tel mouvement en physique. Les conditions sine qua non, pas les principes. Il faut absolument qu'il y ait ça pour que cela apparaisse. Donc c'est négatif, c'est pas positif. Mais il y a là quelque chose de très important à saisir. De sorte que je ne peux pas commencer ma philosophie de la nature au niveau philosophique en regardant ce que la physique dit aujourd'hui. Mais je peux faire appel de temps en temps aux conclusions des savants pour ne pas faire de confusion. Je pose un problème que vous allez tout de suite comprendre. Pour Aristote, il y a 5 éléments. Les 4 éléments. Et puis le 5e, qui est la quintessence. C'est pour ça que c'est le 5e. Quintessence. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les connaissances astronomiques, qui dépendent des connaissances physiques et mathématiques, puis-je encore affirmer la quintessence? C'est un problème très intéressant. Et un problème de critique. Et en même temps, qui regarde la philosophie. Je pose simplement, nous le verrons ensemble. Nous le verrons, mais c'est pour montrer le type de questions qui se posent tout de suite. Pour les anciens, la Terre est centre de l'univers. Puis-je encore affirmer que la Terre est centre de l'univers? nécessairement, il y a une continuité entre la vie de l'homme et la vie de l'animal. Mais ce sont des problèmes frontières. Tous les problèmes frontières sont des problèmes toujours très délicats. Où, là, très souvent, le progrès de la science, de la connaissance scientifique, aidera à mieux comprendre. Mais c'est des problèmes frontières. Problèmes frontières de la limitation du vivant et du non-vivant. Qu'est-ce que c'est que le virus ? Est-ce que c'est un vivant ou simplement quelque chose qui ne peut exister que grâce au vivant et qui prolonge la vie dans un domaine où, normalement, on n'a qu'une vie qui vient de l'extérieur ? Le virus. Pas comment de savoir, vous savez bien. Quand on ne sait plus ce que vous avez, il y a un virus. Quoi ? Ou un virus qui vient d'Afrique. Un virus qui vient de l'Europe. C'est pour ça qu'on dit la grippe, c'est la grippe chinoise cette année-ci. Le virus a passé les frontières. La grippe européenne pour l'Africain qui vit en Europe. Un virus qui transporte. Mais c'est très curieux ces choses-là, mais c'est très intéressant du reste, parce que c'est des problèmes frontières. Les problèmes frontières sont des problèmes ultimes. Il ne faut jamais commencer par le problème frontière. Commencez pas par le problème des douanes pour connaître un pays. Ne commencez pas par le périphérique pour connaître Paris. Faites 50 fois le tour de Paris périphériquement et vous direz au terme, je connais Paris. Vous avez une connaissance périphérique. Et c'est très curieux. La science par rapport à la philosophie est périphérique. C'est pour ça que je prends exprès cet exemple-là. Ça me fait comprendre quelque chose. Le périphérique existe parce qu'il y a une ville. Mais je mets entre parenthèses l'existence de la ville. Je regarde que le périphérique. Ce qui est mesurable. Vous voyez ? Il faut essayer de saisir. On est dans un monde très difficile. Très complexe, merveilleux sur certains aspects, mais aussi qui met en péril. Je vous affirme, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un biologiste qui me l'a dit, qui met en péril la vie humaine, qui met en péril la fécondité, parce qu'on ne sait pas les conséquences de ce qu'on pose au point de vue. Alors, on est comme des gens qui ont posé certaines données et qui ne savent pas jusqu'où ça va aller. Donc c'est une imprudence folle. Et on ne veut pas le dire. Je vous donne cet exemple parce que ça m'a été dit. Hélas, je ne l'ai pas vu. On m'avait invité. Donc un savant que je connais bien avait fait un court-métrage sur les situations limites devant lesquelles se trouve le savant aujourd'hui, le biologiste. En montrant que, de fait, on touche constamment des problèmes dont on ne sait pas les conséquences. Et il avait de là emboîté vers le domaine physique, en montrant par exemple la découverte de la bombe atomique, de la désagrégation d'atomes. En disant que le savant qui avait découvert ça, il avait une fausse intense. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Est-ce que c'est pas ça qui détruira le monde ? Donc, on découvre certaines choses dans l'analyse très poussée dont on ne voit pas les conséquences. Donc, il avait fait un court-métrage là-dessus. Il m'avait invité à venir. J'étais pas libre, je pouvais pas y aller. Il me dit, oh, on redonnera ça une autre fois. Alors, je prendrai une date où vous pouvez venir. Parce que je voudrais beaucoup, vous en avez beaucoup parlé de ces problèmes-là. Parce que ces gens-là s'intéressent tout de suite à la philosophie. Parce qu'ils voient les limites devant lesquelles on se trouve, au point de vue scientifique. donné ce film une fois, et on l'a retiré du commerce. Mais violemment, on l'a pris, il ne l'a plus. En disant, ce film est beaucoup trop dangereux, parce qu'il dit la vérité. C'est quand même terrible de ne pas voir les choses comme elles sont. Ça à l'homme. Ça, l'homme n'est pas capable de porter ça aujourd'hui, donc on lui cache. Alors, le philosophe, lui, doit savoir. Il veut savoir. Parce que l'homme a le droit de savoir. Il a le droit de savoir où il est né. N'est-ce pas ? Autrement, il n'est pas citoyen. Il est un esclave. C'est l'esclave qu'on mène sans lui dire où il va. C'est ça l'esclave dans ce qu'il a de plus profond. Il n'est plus le maître de sa vie, il ne la dirige plus. Alors, je crois, vous voyez, que là on touche fondamentalement à un problème. Je ne le conclue pas, j'essaie d'y chercher. Mais je peux, sur certains points, dire là, je sais. Ce que représente l'abstraction scientifique. L'abstraction scientifique ne touche plus le jugement d'existence. L'abstraction scientifique regarde uniquement les sensibles communs et ne regarde plus les sensibles propres. Par le fait même, l'abstraction scientifique est uniquement au niveau de la mensuration. C'est ça. Qu'on regarde parce que c'est grâce à la mensuration qu'on peut agir. Vous voyez, ce n'est plus une science qui recherche la vérité, c'est une science qui cherche le pouvoir, pouvoir transformer, aider quelquefois d'une façon très belle, pouvoir modifier certaines erreurs. Très beau. Vous voyez, ces recherches sur l'embryon. J'ai un ami qui est chirurgien de l'embryon. Un excellent chrétien, merveilleux. Il me dit, ça me pose des problèmes tout le temps. Je me souviens un jour, il m'a pris en auto en me disant, j'ai des tas de problèmes à vous poser. Et je ne vois pas comment les poser. Parce qu'on me dit, ne cherchez pas, c'est efficace, moi, allez-y. Il m'a dit, je ne peux pas, c'est pas un critère de vérité, d'efficacité. Et je vois très bien combien ça, c'est terrible de découvrir dans l'embryon certaines défauts, du moins ce qu'on présume être des défauts. Ce qu'on présume tout le temps. Hein. Parce que dans l'embryon, la connaissance est tellement délicate, étant donné que tout est un peu confondu. Je ne dis pas que tout est dans. Chaque partie est dans le tout, mais un petit peu. Parce que ce n'est pas encore suffisamment développé. Alors on détecte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on opère. Est-ce qu'on ne va pas tout détraquer? Si on n'opère pas, on laisse. Et si on dit aux parents, ah, l'affolement, je comprends. Mais c'est très délicat comme problème. On se trouve devant des problèmes qui, au point de vue juridique, au point de vue conscience, sont terribles. Est-ce que l'embryon et la connaissance qu'on a de l'embryon modifie la philosophie du vivant? Non. Puisque l'imparfait est ordonné au parfait. Et que ma philosophie du vivant, je la fais quand je suis capable de réfléchir sur ce que je suis. Alors, ça modifie certaines choses par rapport à l'action que je pourrais avoir sur l'embryon. Et cette action sur l'embryon, donc l'usage que je fais de la science, l'usage que je fais de la science relève de la prudence. Et donc relève d'une connaissance de l'homme qui n'est pas l'embryon. Et là, l'Église peut intervenir au niveau moral. Parce que dès qu'on use d'une technique, d'une science pour l'homme, l'Église peut intervenir. L'Église n'intervient pas. loi sur la connaissance scientifique. La connaissance scientifique comme telle est toujours bonne. C'est une certaine vérité. Mais c'est une certaine vérité. Ce n'est pas la vérité tout court. La vérité tout court impliquerait la connaissance existentielle. Impliquerait le regard vers la finalité. L'embryon, par définition, est ordonné à l'homme. Et donc, je ne peux pas regarder l'embryon comme embryon uniquement. Et agir sur lui comme si c'était uniquement ça qui m'intéressait, pas du tout. Il est ordonné à l'homme. Et donc, je ne peux le regarder que dans la perspective de sa finalité, où il est parfait, pour agir. Et vous voyez, ce problème-là, nous le touchons tout de suite avec le problème de la philosophie de la nature. Alors, je voulais au moins qu'il y ait cette réflexion pour vous montrer que ce problème est très, très délicat. Et très intéressant. Hein. Quand je dis très délicat, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le regarder. On doit le regarder. Regarder à fond ce que, au point de vue biologique, ce que l'Église, avec le cardinal Ratzinger a dit, pourquoi l'Église empêche-t-elle à ses enfants le point de vue de la procréation, le point de vue dans la procréation, le point de vue de la vivette, le point de vue donc de la fécondation artificielle. Pourquoi l'Église condamne-t-elle ça? L'Église demande de ne pas faire. Et quand vous vous posez la question, je vous affirme, c'est rude. Hein. C'est pas commun du tout. Des jeunes mariés qui sont mariés depuis 5 ans, pas d'enfants. Et le médecin dit, je crois que vous pourriez avoir un enfant. Si vous employez cette méthode-là. Or, ils sont très bons chrétiens et viennent vous poser la question, est-ce que l'Église permet? Alors ça a l'air, l'Église a l'air d'être méchante. Elle empêche ça, alors qu'elle est pour les enfants. Alors qu'elle veut les enfants. Mais avant les enfants, l'Église veut sauver l'amour. La fécondité n'existe que dans l'amour. Et si on sépare ce que Dieu a uni, on fait un schisme pratique. On fait quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, la connaissance scientifique n'est pas immédiatement pratique, elle est abstraite. Je ne connais qu'un aspect de la réalité, je ne connais pas tout. Et on raisonne la plupart du temps comme si c'était tout. Et je ne peux porter un jugement moral, un jugement pratique, que par la finalité. Je ne peux pas le porter sur uniquement regarder une réalité partielle.